Radio Okapi.
Le journal avec Belinda Bosuma. Okapi.
Trois touristes étrangers attaqués par un caïman, incident survenu vers les chutes appelées Porte d'Enfer à Kongolo dans le Katanga. L'un d'eux, porté disparu, ramène à 46 le nombre des victimes dans ce secteur depuis 2004. Une centaine des malades du sida n'ont plus accès aux antirétroviraux dans certaines structures médicales du Nord Kivu. En cause, la rupture très proche des stocks de ces produits dans la province, le PNMLS lance un SOS à toute personne de bonne volonté. Célébration ce 9 décembre de la Journée internationale de lutte contre la corruption, occasion pour l'ONG Likoko de dénoncer la corruption en RDC comme frein au développement et au respect des droits humains. Madame, Monsieur, bonjour. Ouvrons ce journal par le Katanga où nous apprenons qu'un touriste est mort happé par un crocodile. Cela s'est passé mardi sur la rivière Lukuga à Nyunzu, localité située à 180 km sur la voie ferrée à l'ouest de Kalemie. Les recherches organisées par les autorités civiles locales sur les lieux se sont avérées vaines. François-Xavier Mibé pour les détails.
Des sources proches du territoire de Nyunzu, la victime est un sujet britannique arrivé en touriste avec deux autres des nationalités américaines. Ils sont partis de Kalemie sans accompagnateur, chacun par canot, longeant la rivière Lukuga pour atteindre les chutes de Porte d'Enfer des Kongolos. C'est sur les eaux de Kabeyamaï que les deux touristes affirment avoir entendu tout d'un coup le dernier cri de leur compagnon de voyage alors que la gueule du crocodile tirait la victime sous l'eau. Quelques minutes plus tard, le canot a surgi sur la surface sans son propriétaire. Sitôt saisi du drame, les autorités civiles de Nyunzu sont arrivées sur les lieux accompagnées de deux autres touristes rescapés pour la poursuite des recherches du corps de la victime, mais en vain. L'occasion pour le chef de groupement de Baseba du secteur de Kabeyamaï d'affirmer pour sa part que la nouvelle victime est la 46e personne à être happée depuis 2004 par les crocodiles entre les localités de Nyemba et Kabeyamaï. Le chef Baseba indique par ailleurs que le nombre de caïmans a sensiblement augmenté depuis la période de guerre, rendant aujourd'hui difficile les activités de pêche dans les secteurs de Kabeyamaï, de Kalemie, François-Xavier Mibé, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, signalons la rupture dans un avenir proche des stocks des antirétroviraux sur l'ensemble de la province, annonce faite par la chargée de prévention contre le VIH-SIDA au programme national multisectoriel de lutte contre le SIDA au Nord Kivu. Selon le docteur Alice Moudekereza, à cause de cette insuffisance, la plupart des malades sont en manque. Elle l'a dit à Gabriel Ouamenia.
Nous allons vers la rupture en ARV dans certaines structures de prise en charge des personnes infectées, mais aussi que les ARV disponibles sont prévus pour un certain nombre de personnes à mettre sous ARV. Et donc, lorsque ce nombre est atteint, c'est imprudent d'ajouter de nouvelles personnes. Lorsqu'on ajoute le nombre de malades, la rupture arrivera plus rapidement. Ce que nous avons à faire, c'est un plaidoyer intense pour arriver à mobiliser plus de fonds et du gouvernement et des bailleurs pour rendre disponible plus d'ARV et prendre en charge plus de personnes. Et nous demandons à tous les acteurs, à tous les bailleurs, à tous les partenaires de ne pas baisser les bras et plus qu'autrement nous risquons d'avoir une explosion des chiffres qui étonnera le monde entier.
Notez que certaines organisations basées au Nord Kivu n'arrivent plus à prendre en charge des personnes vivant avec le VIH-SIDA. C'est le cas de l'ONG Amo Congo qui a vu les financements de la Banque mondiale interrompus. Une centaine des malades sont ainsi restés pendant plusieurs semaines sans avoir accès aux antirétroviraux. Pendant ce temps, dans la province de l'Équateur, l'ONG italienne COPI met fin à son projet de prise en charge des enfants malnutris âgés de 0 à 5 ans à Guadolité. Mais les parents dont les enfants souffrent de la malnutrition aiguë souhaitent le prolongement de ce projet. De son côté, le chef des projets rejette ce vœu. Des précisions avec Dominique Colombi.
Au mois d'août dernier, l'ONG COPI a dû courir au secours des enfants malnutris de la zone de santé de Guadolité après l'appel lancé par les autorités humanitaires pour leur venir en aide. Selon Gaspard Kakwata, son projet devait prendre en charge au moins 360 enfants malnutris, mais il s'est retrouvé avec plus de 500 enfants. À part les enfants malades de Guadolité, des parents des zones de santé environnantes, notamment des zones de santé de Moba Mbongo, de Bili et de Bosobolo, ont amené également leurs enfants qui souffraient de malnutrition aiguë et sévère. Au moment où COPI met fin à son projet, d'autres parents continuent à se présenter avec des enfants malades au Centre de nutrition thérapeutique, indique Raoul Mouika, point focal du programme national de nutrition Pronanut Badolité. L'assistance des Koopi, précise le chef de projet, était une urgence de 3 mois qui a même connu une prolongation d'un mois. Il n'est plus question de prolonger encore faute de financement. Toutefois, ajoute Gaspard Kakwata, l'ONG Koopi laisse derrière elle un personnel formé et un lot important des étrangers nutritionnels au Centre de nutrition thérapeutique en vue de la prise en charge des enfants malades pour une période de 2 mois. Mbandaka, Dominique Wolombi-Mongapangé, Radio Okapi.
Toujours dans le social, la question des personnes handicapées semble mal connue et non documentée par les autorités congolaises et même par les communautés locales. Ces personnes continuent à être victimes de discrimination et de marginalisation au Sud Kivu. Ces propos sont des personnes handicapées qui commémorent leur journée internationale à Bukavu ce jeudi. Cette journée, célébrée normalement le 3 décembre de chaque année, a été reportée à ce jour pour des raisons techniques. Une centaine de personnes vivant avec handicap participent à cette journée. On écoute Boulonza Blaise, coordonnateur de la synergie des personnes vivant avec handicap au Sud Kivu. Il est au micro de Delphine Amuto.
Aujourd'hui, la personne vivant avec handicap est confrontée à plusieurs difficultés. L'accès à l'éducation de la personne vivant avec handicap, c'est tout un problème. Il n'y a pas vraiment assez de personnes vivant avec handicap intellectuel. Regardez, ils n'ont pas vraiment accès à la santé. La personne vivant avec handicap, lorsqu'on essaie d'élaborer des différents projets de développement, on ne tient pas compte de cette personne. Et nous, aujourd'hui, nous voulons continuer à sensibiliser toute la couche, toute la population, les autorités, y compris les autorités au niveau local, même national, désormais de tenir compte de la personne vivant avec handicap. Parce que c'est aussi une personne à part entière dotée aussi de talents et de valeurs et elle peut toujours apporter la soif paix au développement de la nation.
De son côté, la division provinciale des affaires sociales, l'autorité locale enregistre des progrès dans la lutte pour la promotion de ces personnes. C'est par exemple la récente mise sur pied du programme de coordination et de supervision des activités en faveur des personnes vivant avec handicap. À Kindu, dans le Maniema, parlant de la séance de sensibilisation et d'information hier sur le 2e recensement général de la population et de l'habitat. Présidée par le gouverneur de province, cette séance a été organisée par la division provinciale du plan et le Fonds des Nations Unies pour la population. Ce projet vise à avoir des nouveaux indicateurs fiables sur la démographie actuelle du pays. C'est un projet qui va coûter 172 millions de dollars américains. C'est un reportage de Mathieu Ilunga, rendu ici par Noé.
L'initiateur du projet Belinda, c'est le gouvernement congolais qui travaille en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Ces deux partenaires ont constaté que le dernier recensement scientifique en RDC relève de l'année 1984. Les indicateurs utilisés jusqu'à ce jour ne sont donc plus fiables pour connaître la démographie actuelle du pays. D'où il faut organiser les travaux préliminaires sur la faisabilité d'un recensement général, systématique et scientifique de la population et de l'habitat. Cette tâche a été confiée par le gouvernement à un consultant belge recruté à cet effet. Ces travaux permettront d'avoir les données réelles de la situation démographique congolaise, non seulement les effectifs de la population, mais aussi les caractéristiques de vie dans lesquelles évolue cette dernière. En ce qui concerne les fonds alloués à ce projet, le gouvernement congolais devra contribuer avec 20 millions de dollars américains sur les 172 millions nécessaires. Le reste est attendu d'ailleurs, notamment des bailleurs de fonds dont la BAD, DFID et la Banque mondiale. Pour l'autorité du Maniema, ce programme est accueilli à bras ouverts et il promet de le soutenir. Rappelons que cette séance était animée à l'intention des responsables des divisions provinciales de l'administration publique, des autorités municipales et bien d'autres cadres de la province du Maniema.
Merci Noé. La journée internationale de lutte contre la corruption, c'est aujourd'hui 9 décembre. Occasion pour la Ligue congolaise de lutte contre la corruption d'indiquer que la corruption est endémique et institutionnelle en RDC, ce qui freine selon elle le développement et la démocratie du pays. La Ligue Coco a fait cette déclaration hier à l'occasion de la célébration justement de cette journée. Pour y remédier, cette ONG en appelle à un engagement politique du chef de l'État et d'autres autorités du pays. On écoute le président de la LICOCO, Ernest Mpararo, au téléphone de Mimi Ngumba Mulongo.
Le premier acteur qui doit vraiment lutter contre, qui doit donner l'exemple, ce sont les leaders, le leadership, le premier citoyen du Congo, les chefs de l'État qui doivent dire, écoutez, à partir d'aujourd'hui, nous disons non contre la corruption et nous allons commencer à sanctionner. Donc, ce qui doit être fait, c'est l'engagement politique du chef de l'État pour dire, écoutez, à partir de demain, à partir du 10 décembre, du 11 décembre, je ne veux plus voir un ministre être cité dans les dossiers de corruption. Et lorsqu'il commence par le plus haut gradé, par le plus haut responsable de l'État, les ministres, les PDG, les gouverneurs, tout ce qui a un pouvoir administratif ou politique, lorsqu'il commence à ce niveau-là, les autres citoyens congolais vont suivre et ils auront peur et la situation peut changer. Notre apport, c'est effectivement de sensibiliser, c'est de crier haut et fort que la corruption freine le développement de la RDC, appauvrit la population, entraîne l'insécurité, freine la démocratie en République démocratique du Congo, freine le respect des droits humains pour que les autorités politiques puissent sanctionner ces faits-là.
En dehors des frontières congolaises, comprendre et s'approprier une information spécialisée sur la justice pénale internationale, focus sur le TPIR et la CPI, c'est le thème d'un séminaire de formation de près d'une semaine organisé par la Fondation Hirondelle de Lausanne à Arusha à l'intention d'une dizaine de journalistes venus de la RDC, de Centrafrique, du Rwanda et de la Tanzanie. But de la formation, amener les journalistes à se familiariser avec la justice pénale internationale. Ce séminaire s'est clôturé hier dans les locaux du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Sur place à Arusha, retrouvant Jeff Ngoy Mulunda qui a participé à cette formation.
De la théorie à la pratique, les journalistes ont évalué la fiabilité des sources croisées relatives à la justice internationale. Ils ont maîtrisé le contexte historique et juridique des informations rapportées dans ces sources, partant des procès en cours à la Cour pénale internationale, CPI, et au Tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIR. Lundi, ils ont couvert une audience de première instance au TPIR, au cours de laquelle un ancien officier de l'armée rwandaise a été condamné à la prison à vie. Et au lendemain de ce procès, les journalistes ont visité le quartier pénitentiaire des Nations Unies à une quinzaine de kilomètres d'Arusha. Sur 90 responsables présumés génocidaires rwandais de 1994 se trouvant sur la liste du TPIR, 10 sont en fuite, 80 ont été arrêtés et 36 condamnés y sont actuellement en détention préventive. De Arusha, Jeff Ngoyi, Radio Okapi.
C'est la fin de ce journal. Merci de rester avec nous pour la suite. Okapi. Okapi. Radio Okapi.